Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, appelez-nous, exprimez-vous dans 30 minutes vos réactions sur la crise entre le Bénin et le Niger. Depuis le coup d'État de juillet dernier à Niamey, les relations entre les deux pays se sont considérablement dégradées. La frontière est fermée depuis près d'un an, le pétrole nigérien est bloqué. Et du coup, pour tenter d'apaiser les tensions, eh bien depuis lundi soir, les anciens présidents béninois Nissé Forceglo et Boni Yayi sont au Niger. Rien n'a filtré de leur entretien hier avec le général Tiani. Ce qu'on sait, c'est que la rencontre a tout de même duré plus de 3 heures. Vous êtes au Bénin, vous êtes au Niger, appelez-nous, dites-nous comment vous vivez ces tensions, quelles en sont les conséquences. D'ailleurs, je suis ravi de voir sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité que plusieurs d'entre vous nous ont écrit justement du Niger. J'ai sous les yeux des réactions de Tawa, de Niamey, de Tillaberi, également Tawa. Donc plusieurs auditeurs d'Ottawa. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure et on fait en sorte évidemment de vous appeler pour que vous puissiez témoigner. Et vous tous qui nous écoutez en ce moment dans la sous-région, j'aimerais également vous entendre sur cette crise qui s'éternise. 33 9 693 693 70 et vos commentaires donc sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et pour commencer, nous avons Tossi Maliki avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous êtes au Cameroun. Bonjour. Vous êtes au Cameroun. Est-ce que vous nous entendez bien? J'ai comme l'impression qu'il y a un petit problème sur le réseau téléphone, non?
Oui, je vous entends très bien.
Ah ben voilà, ça va un peu mieux. Vous avez des questions sur le Mali après l'arrestation à Bamako de 10 opposants, parmi eux des anciens ministres et de hauts dirigeants de partis politiques.
Oui, évidemment, Juan.
Eh bien, allez-y, Tossi Maliki.
Alors, quelles conséquences ces arrestations font-elles peser sur les restes,
oui,
sur les restes de l'opposition?
Alors, on va déjà planter le décor, évidemment, puisque je comprends votre interrogation. Serge Daniel est avec nous, envoyé spécial pour le Sahel. Bonjour Serge.
Juan, bonjour.
Ces opposants, rappelons-le tout de même, ont été interpellés jeudi dernier alors qu'ils participaient à une réunion, hein.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut rappeler que depuis le mois d'avril dernier, la junte malienne a suspendu jusqu'à nouvel ordre les activités des partis politiques. Donc, pas de manifestation, pas de réunion autorisée. Et le 20 juin, alors qu'une dizaine de responsables politiques de l'opposition, tous sont contre la prolongation de la durée de la transition, alors qu'ils étaient réunis au domicile privé d'un des leurs, des agents de services de renseignement du Mali sont arrivés sur les lieux. Arrestation, ils ont été conduits à la BIJ, c'est la brigade d'investigation judiciaire de Bamako, et tout de suite les avocats de la défense ont dénoncé leur arrestation, des arrestations extrajudiciaires ont-ils affirmé et réclamé leur libération, mais ils ont été présentés ce lundi à un juge qui les a inculpés pour attentat et complot contre le gouvernement. En clair, les opposants auraient porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l'ordre public. Ce sont les articles 45 et 46 du Code pénal du Mali. Mais pour le juge, les opposants ont violé l'interdiction de se réunir et ils auraient eu l'intention de soulever les populations contre les autorités.
Et on va répondre évidemment dans un instant à la question de Tossi Maliki. Mais d'abord, que risquent ces opposants? Puisque vous parliez à l'instant de l'article 45, Serge Daniel, sur l'attentat. Cela équivaut à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité?
Ah oui, tout à fait, c'est ce que dit l'article 45 du Code pénal. Et si pour la justice, c'est une simple décision, une simple résolution, donc un complot, ce sera 5 à 20 ans de réclusion. Et si le complot n'a pas été suivi par un acte, c'est la prison de 5 à 10 ans, la sanction pourrait même être moins lourde, 1 à 5 ans ou facultativement une amende. Mais pour la défense, la décision d'interdiction des activités des partis politiques au Mali n'a pas expressément prévu une sanction, si bien que son application sera difficile, c'est ce que dit la défense.
Alors du coup, Serge Daniel, quelles conséquences ces arrestations et ce procès qui va avoir lieu peuvent avoir sur le reste de l'opposition malienne?
Bah, écoutez, l'opposition malienne est quasiment réduite au silence, hein, pour le moment. Elle ne peut pas se réunir, elle ne peut pas manifester, elle est réduite pour le moment, en tout cas officiellement, elle est réduite pour le moment à faire des communiqués. Il y en a eu un, par exemple, ce mardi, c'est un communiqué de parti d'opposition pour dénoncer les inculpations et l'arrestation des 10 opposants. Ils ont été transférés d'ailleurs dans 3 différentes prisons sur le territoire national. Et vous savez que pour s'opposer à la junte, symboliquement, d'autres opposants ont formé un gouvernement en exil dirigé par un magistrat de formation. Là aussi, un communiqué pour dénoncer les arrestations et les inculpations, je cite, non fondées. Alors, il y a une information qui circule, information de dernière minute, en signe de protestation contre les inculpations des opposants. Il y a 2 partis, une association politique malienne, qui entendent appeler à la désobéissance civile et ou à une manifestation.
À suivre. En tout cas, ce matin, sur notre antenne, l'opposant Mamadou Konaté, qui est le vice-président du parti M5 RFP Mali Koura, s'est dit indigné par ces arrestations. Il affirme que ces poursuites ne sont pas fondées, qu'elles ne sont pas de nature à renforcer la cohésion sociale, et d'affirmer qu'en ce moment même, actuellement, au Mali, il y a une psychose qui s'installe au sein de la classe politique, et même au-delà de la classe politique. Les gens, a-t-il dit, ont peur de parler, peur de critiquer. Merci infiniment Serge Daniel, envoyé spécial pour le Sahel, et merci à Tosi Maliki de nous avoir appelé du Cameroun, et désolé hein, pour les petits problèmes de réseau téléphonique. On repasse au standard, il est 10h17 ici à Paris, avec des questions sur le Niger. Bonjour Abdelaziz.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes au Bénin.
Oui.
On vous écoute, vos questions sur la situation sécuritaire au Niger.
Bonjour aux auditeurs de la RFI. Ces 10 derniers jours, 2 groupes rebelles ont commis des actions contre l'acheminement du pétrole et contre un préfet. Ma question est, que savons-nous de ces groupes politico-militaires? Pourquoi réagissent-ils maintenant?
Oui, 2 groupes politico-militaires, le Front patriotique pour la justice et le Front patriotique pour la libération, en tout cas tous les deux, ont une même revendication. On va tout vous expliquer avec Sedi Kaba. Bonjour.
Bonjour Al-Gomez, bonjour à tous vos auditeurs.
Et merci à vous d'être avec nous, Sedi Kaba, journaliste, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. On vous doit notamment cet ouvrage publié aux éditions L'Harmattan, Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger. Soyons pédagogues, Sedi Kaba. D'abord, que sait-on sur le Front patriotique de la justice, ce groupe qui a donc revendiqué vendredi dernier l'enlèvement d'un préfet?
Oui, le Front patriotique pour la justice a été créé à la suite du Front patriotique pour la libération. Et c'est un mouvement qui est dirigé par un certain Mahamat Touri, un Kawarien. Vous savez, le nord du Niger est divisé en 2 parties. Il y a le Kawar et l'Aïr. Le Kawar, c'est la partie qui fait frontière avec le sud libyen, l'Algérie et un peu le Tchad. Donc, le mouvement patriotique pour la justice a été créé dans cette région et il a pu se créer facilement parce qu'il y a un terreau favorable depuis que la Libye a été démantelée par l'intervention de l'OTAN. C'est devenu un supermarché où on peut s'approvisionner facilement en armes. Et ensuite, après ça, on peut mobiliser des jeunes qui n'ont pas d'activité dans la région. Et c'est ce que le Front patriotique pour la justice a fait en recrutant des jeunes et en essayant de s'armer. À partir du sud libyen, il a créé ce mouvement politico-militaire dont vous avez ramené la revendication.
Effectivement, Sedi Kaba, vous disiez dirigé par un certain Mahamat Touri, certain parce que jusqu'ici, il était inconnu. Il y a donc un deuxième mouvement, le Front patriotique pour la libération. C'est ce mouvement, ou en tout cas ce groupe armé qui a revendiqué il y a 10 jours maintenant le sabotage d'un tronçon du pipeline qui transporte le brut nigérien vers le Bénin. Là aussi, que pouvez-vous nous dire en quelques mots pour avoir quelques informations?
Oui, il a la même zone d'activité que le Front patriotique pour la justice. Il est le plus actif parce qu'il est né avant. Et son leader est une personne connue à la fois au Niger et un peu dans la sous-région, Mahamat Salah, qui est un quadragénaire nigérien qui a fait sa formation universitaire au Niger, son activité professionnelle, qui est spécialisé dans un domaine dont on parle beaucoup aujourd'hui, le pétrole. Oui. Il a travaillé pour la société la Soraz, la société de raffinerie des Andes. Ensuite, il a été consultant pour la CNPC. Et après cela, après des divergences avec le régime du président Bazoum, il s'est exilé à Libye et c'est de là-bas qu'il a créé ce mouvement aujourd'hui qui a en partage avec l'autre mouvement des mêmes revendications, la libération de Bazoum, voilà. Le rétablissement de la démocratie.
Effectivement, libération de Mohamed Bazoum, renversée en juillet dernier, retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi ces deux groupes réagissent-ils maintenant ?
Oui, je crois qu'ils ont le contexte post-coup d'État du 26 juillet 2023 a fait qu'il n'y a plus d'expression possible sur le plan des revendications politiques, comme on vient de le voir au Mali. Le rétrécissement de l'espace a fait que les gens ont d'autres formes d'expression, notamment la prise des armes pour, justement, ce qui est paradoxal, revendiquer la démocratie avec des moyens non démocratiques. Je pense que le fait qu'on ait fermé l'espace civique, qu'on ait interdit les libertés, a créé cette forme de revendication qui peut s'expliquer parce que les gens n'ont plus d'autre recours que de prendre des armes pour... même si ce n'est pas la meilleure solution.
Ouais. Justement, Sédi Kaba, on me dit qu'Abdelaziz a encore une dernière question à vous poser. Allez-y, Abdelaziz.
Oui, et ces groupes armés ont-ils la capacité de déstabiliser le pays si la junte ne répond pas à leurs demandes ?
Alors, quelle est concrètement leur capacité de nuisance, Sédi Kaba ?
Elle est importante, puisque on sait que le Niger est déjà très déstabilisé sur le flanc sud-est, avec le Boko Haram, sur le flanc nord-ouest, avec le Jnim qui vient de revendiquer une attaque importante, et l'État islamique au Grand Sahara. Le nord était relativement calme, à part la situation en Libye. Maintenant, le fait que ce front vient s'ajouter aux deux qui existent déjà va déstabiliser, va aggraver la situation sécuritaire au Niger, et ça peut conduire à la déstabilisation du pays. Même si les mouvements n'ont pas la capacité de débouler sur Niamey, c'est pas ça leur agenda. Mais le fait qu'il existe déjà et qu'il puisse faire des actions, comme l'enlèvement d'un préfet, le sabotage du pipeline, sont des choses qui peuvent amener justement à créer une aggravation de la situation sécuritaire dans le pays.
Merci infiniment, Sédi Kaba, président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Abdelaziz, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, là, il a répondu à mes questions.
Bon, on vous souhaite une bonne journée à Parakou. Je crois que c'était votre première intervention sur RFI. C'est ce qu'on me dit au standard.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Continuez à nous être fidèles. Alpha nous rejoint. Il est en Guinée, à Conakry exactement. Bonjour Alpha.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à l'ensemble de vos collaborateurs.
Merci pour eux.
Y compris votre cher invité.
Oui.
Mes inquiétudes d'abord... 400 membres de forces de l'ordre kényans sont en direction de Haïti.
Alors, ils ne sont pas en direction d'Haïti. Hein. Ils sont déjà arrivés en Haïti. Hein. Ils sont arrivés hier, exactement, pour être précis.
OK. 400 membres de forces de l'ordre kényans sont en Haïti. Donc, à 8 mois après que l'ONU a donné son accord à ce déploiement, pourquoi cela a pris autant de temps ? Ça, c'est la première question.
Alors, pourquoi ça a pris autant de temps ? Alors, ils ne sont plus 400 comme initialement annoncé, ils sont finalement 200. Hein, 200 à être arrivés hier à Port-au-Prince. Bonjour, Jacques Nézy.
Bonjour, Juan Gomez.
Politologue à l'Université des Antilles et chercheur associé au laboratoire caraïbéen de sciences sociales. Pardon. Il a fallu attendre effectivement 8 mois pour que ces 200 premiers policiers kényans arrivent au Port-au-Prince. Pourquoi était-ce si long ?
Ça a été assez laborieux. Dans un premier temps, il faudrait un gouvernement légitime en Haïti. C'est vrai, Ariel Henry, le premier ministre précédent, démissionnaire. Il semble qu'il a été d'ailleurs trop entreprenant parce qu'il a même payé très cher sa visite au Kenya, signé un accord avec le président kenyan. Donc, il semble, par la suite, il a été éjecté de son poste. Donc, deuxièmement, il fallait mettre un gouvernement un gouvernement représentatif en Haïti, ce qui a été très long également. Et puis, il y a la question budgétaire. Il semble que le Kenya attendait aussi la rallonge budgétaire, la dotation en ressources financières promise par Washington. Donc, il y avait tous ces éléments-là. Et puis ensuite, il y a la préparation de la mission.
Et puis il y avait aussi, excusez-moi Jacques Nézy, la vive réaction de l'opposition qui a contesté, qui a même saisi les tribunaux au Kenya pour dénoncer le caractère anticonstitutionnel de ce déploiement de policiers. Donc ça a retardé l'arrivée du premier contingent à Port-au-Prince.
ça, c'est encore un élément. Et puis sur place aussi, les forces kenyanes ne sont pas si bienvenues que ça, parce que certains pensent qu'il y a une sorte de trahison, c'est-à-dire que les États-Unis en sous-main dissimulent leurs véritables intérêts en externalisant cette mission avec le Kenya, c'est-à-dire en faisant en sorte que c'est le Kenya qui intervient, mais au fond, ce sont les États-Unis d'Amérique qui gèrent la mission. Donc, pour certains Haïtiens, étant donné le Kenya, c'est un pays africain, donc on penserait qu'il y aurait une sorte de solidarité pour faire face à la domination américaine sur Haïti. Donc, on voit bien que ce sont des intérêts de préférence, des intérêts financiers, et puis aussi il y a des intérêts géopolitiques, c'est-à-dire une alliance entre les États-Unis d'Amérique et le Kenya, et tout au moins, étant donné que les États-Unis veulent garder aussi leurs mains sur tout ce qui se passe en Haïti et en montrant qu'ils ne sont pas responsables de la dégradation de la situation. Donc, je pense le Kenya sert bien les mobiles des intérêts américains, ouais. C'est-à-dire en faisant en sorte qu'ils arrivent à camoufler tout le bilan catastrophique, parce qu'il faut le rappeler, dans cette situation, les Américains, dans un premier temps, ont négligé la dégradation de la situation, puis se sont engagés, ils étaient même prêts à intervenir, puis se sont désengagés. Et donc, il y a eu une sorte de tour de passe-passe entre le Canada, les États-Unis et enfin le Kenya qui devient une sorte, on peut dire, qui vient au secours des États-Unis, mais dans une sorte d'alliance, de deal, entre guillemets, entre les deux pays.
Jacques Nézy, Alpha, encore une question à vous poser. On vous écoute.
Sait-on quelle va être la première mission des policiers envoyés?
Alors, ils sont là-bas pour sécuriser, en tout cas, essayer d'aider les forces de sécurité haïtiennes à lutter contre les gangs. C'est bien ça, Jacques Nézy?
Le cadre de la mission est fixé par la résolution 2699, comme ça a été rappelé tout à l'heure par l'auditeur, du 2 octobre 2023. Trois punitions. La première mission, c'est de sécuriser les ports, les aéroports, les ministères, les infrastructures. Ensuite, de renforcer la police nationale sur le plan professionnel. Et par la suite, aider dans les limites du possible. C'est là où se trouve les limites de cette mission qui sont précisées dans cette résolution 2699, dans les limites, dans les champs du possible, essayer de faire en sorte que l'aide alimentaire soit distribuée. Or, on voit bien ce cadre, il est complètement, ne colle pas avec l'ampleur de la situation, qui est une situation catastrophique. Il faut le rappeler, et des milliers de familles ont été pourchassées de leur maison, de leur résidence. L'économie haïtienne est complètement décapitée, puisqu'il y a ce programme Biden met en place le président américain qui tend à recevoir des milliers d'Haïtiens. Donc les cadres sont partis, l'économie est à bout de souffle. Oui. Autrement dit, c'est un pays en exsangue et que cette mission, on attend à ce que cette mission réponde à la nécessité de mater les gangs, de mettre fin à leur toute puissance et ensuite de renforcer l'appareil judiciaire. Mais on voit bien que le cadre de la mission est assez limité.
Ouais, vous êtes assez sceptique. Merci infiniment, Jacques Nézy, d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à Alpha et nous éclairer justement sur le rôle de ces policiers kényans. Les 200 premiers policiers kényans sont arrivés hier donc à Port-au-Prince. Je rappelle que le Bénin, le Tchad, le Bangladesh, mais aussi les Bahamas et la Barbade ont promis de contribuer à cette mission d'appui à la sécurité en Haïti. Alpha, on a répondu à vos questions. Êtes-vous satisfait?
Oui, merci beaucoup. Merci à notre invité.
Merci à vous. À Conakry, bonne journée. Je m'excuse auprès d'Adam. Est-ce qu'il est là, Adam, au standard? Allez, je le prends
là,
juste. Vous êtes là. Comment allez-vous, Adam?
Bonjour, monsieur Van Gomet, et bonjour à vos invités.
Oui, vous patientez depuis le début de l'émission au standard, mais je suis au regret de vous annoncer que vous ne pourrez pas poser votre question ce matin. On arrive déjà à la fin de la première partie, mais si vous êtes disponible, on vous rappelle demain, c'est possible?
C'est possible, oui, tout à fait.
Bon, bah merci de votre compréhension, d'autant que vos questions seront toujours d'actualité, puisque vous avez entendu hier que ça y est, c'est fait, c'est officiel. Les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ont commencé hier, donc on aura l'occasion d'y revenir, évidemment, demain matin. Vous restez avec nous sur RFI dans 10 secondes, la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après pour parler ensemble de la crise.